Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui Grégory Pless, je vais vous accompagner pendant une heure d'émission en français. On va faire le point comme d'habitude sur l'actualité sportive. On ira aussi en France pour parler de la réouverture d'un magasin mythique et très chic, la Samaritaine. Et puis on parlera aussi gastronomie, que ce soit en camping ou sur la route, avec un jeune chef cuisinier qui s'appelle Gaël Tessier. Mais tout de suite, c'est l'heure du journal. On y va pour les infos. Les principales actualités de ce mardi 17 août 2021. Kaboul est de nouveau sous le contrôle des talibans, mais Joe Biden, le président américain, défend le retrait des dernières troupes américaines d'Afghanistan et rejette toute forme de responsabilité. En Nouvelle-Galles du Sud, l'épidémie de Covid-19 ne ralentit pas. On recense aujourd'hui plus de 450 nouveaux cas, et ce malgré l'introduction hier de nouvelles restrictions. Enfin, à New York, le maire Bill de Blasio s'est inspiré de l'exemple français et vient d'introduire un pass sanitaire, une première aux États-Unis. Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, est donc tombée hier entre les mains des talibans. Une nouvelle qui a provoqué des scènes de chaos dans la ville et notamment à l'aéroport où des milliers de personnes se sont pressées pour tenter d'embarquer à bord d'un des avions envoyés par les puissances étrangères pour rapatrier leurs ressortissants. On a même vu des gens tomber du ciel qui s'étaient accrochés aux roues des avions avant qu'ils ne décollent. Cette situation, beaucoup estiment qu'elle est la responsabilité des États-Unis. Mais pourtant, Joe Biden, le président américain, a défendu son choix de retirer les dernières troupes américaines d'Afghanistan. Il y a quelques semaines, il a rejeté toute responsabilité. À New York, la correspondance de Lubna Anaki pour Radio France Internationale.
Pour Joe Biden, la guerre en Afghanistan avait deux objectifs, faire payer les responsables des attaques du 11 septembre et anéantir la capacité de nuisance d'Al-Qaïda. Des missions accomplies, selon le président américain, qui a ajouté que le but n'a jamais été, je cite, de construire l'Afghanistan. Le président dit ainsi ne pas regretter sa décision de retirer son pays de cette guerre. Les troupes américaines ne devraient pas avoir à mourir dans une guerre que l'armée afghane elle-même n'est pas prête à mener, a dit Joe Biden. Ce qui s'est passé ces derniers jours est la preuve qu'une année ou 5 ans ou 15 ans de plus de présence américaine n'aurait rien changé, a affirmé le président. Joe Biden s'est dit triste de voir ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan et s'il a reconnu que le retour rapide au pouvoir des talibans a surpris les Américains, il a expliqué que c'était en partie à cause du gouvernement afghan qui avait assuré qu'ils étaient prêts à se battre et à maintenir l'ordre. Joe Biden a expliqué que la priorité désormais des États-Unis était d'évacuer ses ressortissants et les alliés afghans et il a prévenu que toute attaque contre les troupes américaines donnerait lieu à des représailles sans merci. Lubna Anaki, New York, RFI.
Le gouvernement australien, qui a également retiré ses derniers soldats d'Afghanistan il y a quelques semaines, a pour sa part appelé au rétablissement de l'ordre à Kaboul et notamment à l'aéroport. C'est une condition essentielle, d'après le ministre de la Défense, Peter Dutton, pour que les avions militaires actuellement en partance pour l'Afghanistan et qui sont destinés à rapatrier les Australiens sur place puissent assurer leur mission. C'est en gros ce qu'il expliquait dans une interview accordée à la chaîne Nine.
Terrible, terrible scenes. There needs to be order restored to the airport so that there can be safe passage of planes in and out and so that we have the ability to move people, whether they're Australian citizens or American citizens, Canadians, New Zealanders, in and out of that airport. So it's in a state of flux at the moment. Now, we do have some Australians who are left there who are working in NGOs or are contractors in the country. Mm. We'll provide assistance to withdraw them and that will take some time.
Patience donc pour les Australiens qui se trouvent toujours en Afghanistan. Un, en revanche, qui aurait pu prendre un peu plus de temps avant de tweeter, c'est le sénateur du Queensland, Matt Canavan, membre du parti des Nationals et qui, une fois encore, aurait dû tourner cette fois la langue dans sa bouche avant de parler. Cet indéfectible défenseur de l'industrie du charbon, par ailleurs un climato-sceptique assumé, a posté un message hier sur Twitter dans lequel il se demande si on sait si les talibans vont s'engager vers la neutralité carbone. Un message idiot et largement critiqué, y compris par des membres de son propre parti, mais sans surprise, Matt Canavan ne regrette rien, c'est ce qu'il a assuré sur Sky News.
It was meant to be provocative, and it has provoked a response. The comment is about our misplaced priorities. Now, what is unfolding in Afghanistan is a humanitarian disaster, but it is also a man-made debacle. I realize some people will take offense from it, and you know that's unfortunate. But in the world we live in, but I do think we need to. I'm trying to wake people up. All right, we need to wake up.
La prise du pouvoir par les talibans en Afghanistan fait également réagir, bien sûr, en Europe. Les pays européens craignent notamment l'émergence d'une nouvelle vague de réfugiés. Et sur cette question, les 27 au sein de l'Union européenne hésitent entre assurer un accueil humanitaire et la crainte de créer un appel d'air. On fait le point avec Jérémy Audouard pour RFI.
La crainte de l'Union européenne, c'est surtout de voir une vague migratoire similaire à celle de 2015, lors de la guerre en Syrie. D'après les estimations de la Commission européenne, 500 000 Afghans pourraient fuir leur pays très prochainement. La plupart devraient rejoindre les pays limitrophes comme l'Iran ou le Pakistan. Une partie pourrait se diriger vers l'Europe en passant par la Turquie. Les 27 divergent sur la question de l'accueil des réfugiés afghans. La Commission européenne demande de suspendre les retours forcés en raison des problèmes sécuritaires. La France, l'Allemagne ou les Pays-Bas ont adopté cette conduite en suspendant les expulsions. A l'inverse, l'Autriche, la Belgique et la Grèce comptent poursuivre les retours forcés. Une stratégie qui, selon eux, va éviter de créer un appel d'air. Jérémy Audouard, Bruxelles, RFI.
On prend maintenant la direction d'Haïti, frappée il y a 3 jours par un tremblement de terre qui a tué au moins 1300 personnes et fait plus de 5700 blessés. Le sud de l'île est désormais en proie à une tempête qui s'approche. Sur place, la situation est très critique d'après le père Louis Mérosenet. Il exerce dans la commune d'Anse-Avaux. Ses propos ont été recueillis par Sofia Katsenkova pour RFI. Je vous propose de les écouter.
Moi, j'avais un peu de riz en stock pour les pauvres et je distribue maintenant. C'est juste pour maintenir pour 2 ou 3 jours, pour quelques gens. J'ai pas suffisamment de nourriture pour toute la maison. Il n'y a pas d'aide humanitaire qui est arrivée à l'Anse-Avaux encore. Les routes ne sont pas totalement endommagées, mais pour la majorité des choses, il faut les trouver à Port-au-Prince, la capitale. Maintenant, il y a un problème avec le passage par Martissan. Martissan, c'est le site fameux de là où il y a des guerres entre des gangs. Donc tout le monde a peur de traverser Martissan et c'est vraiment le seul passage pour arriver de Port-au-Prince à l'Anse-Avaux ou de Port-au-Prince au Grand Sud. Mais puisque la sécurité là-bas n'est pas assurée, il est difficile à transporter des matériels pour venir en aide à l'Anse-Avaux et même à d'autres villes.
452 nouveaux cas signalés aujourd'hui en Nouvelle-Galles du Sud, où les autorités ont également annoncé un décès, celui d'une personne de plus de 70 ans qui était une patiente de l'hôpital de Westmead. Gladys Berejiklian a par ailleurs annoncé que désormais 5,2 millions de doses de vaccins avaient été administrées à travers l'État, laissant donc penser que l'objectif qui est de passer le cap des 6 millions d'ici à la fin du mois devrait être atteint. Une étape importante puisque la vaccination massive de la population, c'est désormais le seul objectif qui permettra aux habitants de l'État de retrouver un peu de liberté.
That life will be much freer than what it is today once we get to 70% and 80%. It doesn't mean we'll be completely free. It doesn't mean that we will let the virus be rampant in the community, no matter our number of cases. But it will be freer than what it is today. Once we get to 6 million jabs, we will be able to consider opportunities for how what we might be able to do in September and October that we can't currently do.
Pour ce qui est de l'état du Victoria, où le confinement, on l'a appris hier, est prolongé jusqu'au 2 septembre, on compte aujourd'hui 24 nouveaux cas et 17 à Canberra, où personne jusqu'à présent n'a été hospitalisé. Sur un tout autre sujet, Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général de l'ONU, par ailleurs architecte des accords de Paris sur le climat et signé en 2015, il a été critique envers les objectifs de l'Australie sur la question climatique, donc des objectifs qu'il estime en l'état insuffisants. Lors d'un sommet virtuel sur le climat, il a appelé Scott Morrison à changer de braquet et à réduire au moins de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030.
The world is looking to Australia to take its place amongst the international community and lift its national ambition on climate. Without decisive action to reduce emissions, escalating climate change will increase the frequency and intensity of disasters. Australia is well placed to be a global renewable energy leader.
Et les critiques à l'égard du gouvernement fédéral et son manque d'ambition sur la question du climat viennent également de son propre camp, à l'image notamment du ministre de l'Environnement de Nouvelle-Galles du Sud, Matt Keane, qui a carrément appelé les électeurs, en tout cas ceux pour qui la cause climatique est importante, à s'exprimer dans les urnes lors de la prochaine élection fédérale, qui interviendra au plus tard en mai l'année prochaine. On retourne maintenant aux États-Unis et plus précisément à New York où un pass sanitaire vient d'être mis en place. Il est désormais indispensable pour aller au restaurant, dans des salles de spectacle ou encore pour faire du sport. Une mesure jusqu'à présent inédite aux États-Unis et qui intervient alors qu'on assiste à une flambée des contaminations dues au variant Delta. Le maire de New York, Bill de Blasio, a donc décidé de s'inspirer du modèle français pour relancer la campagne vaccinale. Reportage Loïc Loury pour RFI.
Sur le comptoir du Porcelain, un restaurant du Queens, l'avertissement trône déjà depuis une semaine, vaccination obligatoire pour dîner en intérieur. Max, le propriétaire, a pris les devants.
À vrai dire, je crois que ça aurait dû être fait plus tôt. Le variant Delta, c'est très sérieux. Et je pense que ça fait partie de notre travail. Dans ce café-restaurant, nous avons cette responsabilité d'assurer la sécurité des clients.
Pour s'installer, il faut donc montrer patte blanche, un QR code ou une carte de vaccination. Les règles ne sont pas encore bien établi, mais Lise, une cliente, s'y plie volontiers.
Je connais des gens qui s'en inquiètent, qui pensent que c'est une atteinte à leurs droits. Mais si en défendant vos droits, vous mettez la vie des autres en danger, je crois que ça n'a plus rien à voir avec une affaire de droit. J'aimerais juste que ces variants arrêtent de circuler, et c'est un pas dans cette direction.
Et si son amie Meghan s'attend à des protestations ?
Les gens sont énervés parce qu'ils ne croient pas au vaccin. Je ne sais pas moi, trouvez-vous un autre passe-temps ? On ne veut pas des gens non vaccinés qui propagent le virus.
Les choses sont ce qu'elles sont, ajoute le patron. Les établissements récalcitrants auront un mois pour s'habituer à ce pass vaccinal avant que les autorités ne commencent à distribuer des amendes. New York, Loïc Loury, Radio France pour RFI.
Et on termine ce journal en jetant un coup d'œil à la météo de ce mardi en Australie. 23 degrés du soleil à Perth, 15 à Adelaide, 14 à Melbourne où il y aura quelques averses aujourd'hui, 12 petits degrés à Hobart, 19 degrés à Sydney, 23 à Brisbane, 27 à Cairns et jusqu'à 34 degrés aujourd'hui à Darwin.
Journal des sports de ce mardi avec tout d'abord le foot, la Ligue 1 en France. Avec la deuxième journée le week-end dernier, le bilan avec Charlotte de Rouen pour RFI.
Bordeaux recevait Marseille, mené 2-0 à la mi-temps. Les Girondins sont revenus en puissance en deuxième période. Ils sont parvenus à égaliser et arracher le nul sur la pelouse du Vélodrome. Timothée Pembélé a marqué le premier but bordelais, son premier sous ce maillot girondin. Une fierté pour le jeune buteur.
On a été mené 2-0 à la mi-temps. Le coach nous a bien parlé au vestiaire. Fallait se remobiliser. On est revenu sur le terrain avec la dalle et on a réussi à revenir à 2-2. J'avais à cœur de faire une bonne première. Voilà, et c'est réussi et j'ai mis mon premier but. Je remercie tout le monde. Je suis content de faire match nul ici.
Timothée Pembélé, des propos recueillis par nos confrères d'Amazon Prime Vidéo. Dans les autres matchs du jour, Saint-Étienne n'a pas réussi à s'imposer à Lens. Le club du Nord a arraché le nul au bout d'un match serré de partout. Angers pointe à la première place du classement provisoire après sa victoire face à Lyon 3-0. Un partout entre Rennes et Brest. Trois partout entre Reims et Montpellier. 2-0 pour Nantes qui s'impose à Metz. Idem pour Clermont qui fait face à Troyes.
En Angleterre, la Premier League, et on revient sur le bilan des matchs du week-end dernier avec Martin Guez et Philippe Auclair pour RFI.
Hey Jude, l'hymne des Beatles repris à plein poumon par les supporters de Brentford, le promu qui avait l'honneur d'ouvrir le bal et qui s'en est donné à cœur joie vendredi en battant Arsenal 2-0. Du monde dans les tribunes, des chants à foison, voilà qui ressemble enfin à du foot anglais. Alors le roi d'Angleterre qui chute d'entrée de son trône, Manchester City, malgré la recrue Jack Grealish, aligné d'entrée, qui s'est incliné 1-0 face à Tottenham.
Oui, c'est une mauvaise habitude de Manchester City, décidément, dans ce nouveau stade de Tottenham, puisqu'ils ont joué 5 matchs, ils en ont perdu 4. Et là, malgré une bonne entame de jeu des joueurs de Pep Guardiola, et on a vu une équipe de Tottenham qui était extrêmement déterminée, qui était pourtant pas au top, on pourrait dire, au niveau de son organisation défensive au départ, qui montrait un petit peu de fébrilité, qui est montée en puissance tout au cours de ce match, et qui finalement sort un résultat qui est totalement mérité au niveau de l'intensité, de l'engagement, de la détermination des joueurs de Nuno Espirito Santo, dont c'était le premier match donc à la tête des Spurs, et avec un but marqué par qui d'autre, Hummingson, comme d'habitude, et Tottenham qui a tenu bon jusqu'à la dernière minute.
Samedi, les grosses cyladrées ont carburé Chelsea, Liverpool, mais surtout Manchester United qui a été porté par un immense Paul Pogba.
Oh, Pogba a fait peut-être son meilleur match pour Manchester United. Alors statistiquement, tout le monde va parler de ses 4 passes décisives. Seulement le 7e joueur dans l'histoire de la Premier League a réalisé 4 passes décisives dans un premier match. Le premier joueur français à le faire. Le premier joueur à le faire lors d'une première journée du championnat. Avec également un remarquable Bruno Fernandes, comme d'habitude, un triplé pour le Portugais. Mais le Français a crevé l'écran, véritablement une performance complète.
Ça fait donc 5-1 cette fois pour Manchester United, et ça fait 3-0 pour Chelsea et Liverpool, vite réglé hier.
Oui, et Chelsea, en l'occurrence Thomas Tuchel, a joué un vilain tour à Patrick Vieira, dont c'était le premier match à la tête de Crystal Palace, mais absolument pas photo pendant cette rencontre, avec une équipe de Chelsea à laquelle il manquait pourtant N'Golo Kanté, à laquelle il manquait Romelu Lukaku, et s'est imposé devant son public 3-0. En ce qui concerne Liverpool, ça a été un tout petit peu plus compliqué, mais quand je dis ça, c'est vraiment un tout petit peu plus compliqué. 3-0, le but habituel pour Mohamed Salah. Et les Reds, ma foi, qui commencent très très bien cette saison pour le titre.
On passe maintenant en Espagne avec la première journée de la Liga. Le FC Barcelone qui a gagné sans Lionel Messi. Pierre Chaperon nous explique tout ça en compagnie de Martin Guez.
Oui, des médias espagnols qui ont jugé ce premier match de l'ère post-Messi plutôt pas mal. Un Barça qui a joué ce soir à se faire peur. Ça a duré une vingtaine de minutes en deuxième période quand il menait 3-0 avec l'ouverture du score par Piqué et un doublé de Braithwaite avant de voir la Real Sociedad très mauvaise en première période mais bien plus entreprenante en deuxième. Revenir à 3-2, mais Sergi Roberto a rassuré les siens et mis le quatrième but en fin de rencontre.
Des doublés de Braithwaite, on n'en croit pas nos yeux aussi. Surréaliste qu'un transfert de Messi, du spectacle sur le terrain, mais aussi en dehors, Pierre.
Oui, puisque en Catalogne, le public était de retour. La jauge est à 40%, comme partout en Espagne. Un public qui a affiché sa colère envers le Barça et son président. Quelques banderoles déployées en dehors du Camp Nou. Et puis, on a entendu le public scander le nom de Messi à la 10e minute de la première et de la seconde mi-temps. Un public partagé, puisque les chants sur Messi ont été sifflés ou arrêtés par des Visca Barcelona.
Le champion en titre, c'est l'Atlético de Madrid, qui a aussi débuté par un succès 2-1 sur la pelouse de Vigo.
Oui, avec un doublé de André Correa pour les Colchoneros. Pas trop de difficultés pour Atlético en Galice. Avec un très bon Kondogbia, petite surprise puisque l'international centrafricain a débuté titulaire. Ce n'est pas si souvent le cas depuis son arrivée l'année dernière. Pourras, il a été très actif dans la récupération du ballon, très présent et infatigable. Un très bon point pour lui.
Pour la toute première sans Ramos, le Real Madrid s'est baladé 4-1 du côté du Pays Basque. C'était contre le Deportivo Alavés.
Oui, et à chaque fois, Karim Benzema est en une de Marca et de As ce matin. Marca parle d'un début de championnat plein d'envie pour le Real.
Les Espagnols qui ont noté les sifflets du Parc des Princes envers Kylian Mbappé dans le match du PSG.
Oui, de toute façon, en Espagne, on scrute tout, on analyse tout, les faits et gestes du français. Ici, de ce côté-ci des Pyrénées, ce qu'on me dit, c'est que les prochains jours, voire même les prochaines heures, seront cruciales sur ce dossier. Le Real qui n'attend qu'un signe de Mbappé pour passer à l'attaque, c'est l'objectif presque de cet été.
Et puis en Allemagne, l'Allemagne endeuillée par la mort de Gerd Müller, une légende. Sarah Lubakusch, RFI.
La discipline a perdu l'un de ses monstres sacrés. Le footballeur allemand Gerd Müller, star du Bayern Munich dans les années 60 et 70, s'en est allé. Il avait 75 ans, il est tout simplement le meilleur buteur de l'histoire du championnat allemand. Surnommé Der Bomber, le bombardier, il s'est distingué par ses buts et ses titres. 566 réalisations marquées en 607 matchs sous le maillot du Bayern. Il a inspiré une génération entière de footballeurs dont fait partie Gernot Rohr, l'actuel le sélectionneur du Nigeria a bien connu Gerd Müller. Ils ont joué ensemble au sein d'un Bayern imbattable dans les années 70.
Gerd Müller était pour moi un coéquipier fantastique. C'était quelqu'un de très sympa, très simple. Et moi qui étais un jeune joueur, il a été toujours très gentil avec moi. À l'entraînement, je devais jouer contre lui souvent, comme j'étais défenseur. Et qu'on faisait des matchs d'entraînement, et il était aussi bon à l'entraînement qu'en match, forcément. Ah, c'était un buteur. C'était un buteur, son royaume était le surface de réparation. Buteur, uniquement, mais aussi remiseur. Ce profil-là, on le voit presque plus aujourd'hui, hein, on a des avant-centres plutôt grands gabarits, lui était trapu, sur 10 tirs, il y avait 8 qui étaient dedans. Hein. C'était une très grande efficacité.
La Vuelta, le tour cycliste d'Espagne avec la troisième étape hier, remportée par Rein Tamarey, l'Estonien. On passe au tennis avec le tournoi de l'Open du Canada, les Masters 1000, avec le russe Medvedev qui a battu Opelka, l'américain, en deux manches en finale. Chez les dames, c'est l'italienne Giorgi qui a gagné la finale contre Pliskova en deux manches. Troisième titre pour l'italienne. Et puis, la mauvaise nouvelle que Roger Federer va se faire opérer à nouveau au genou et donc il ne jouera pas à l'US Open. On l'écoute.
I've been doing a lot of checks with the doctors as well on my knee, getting all the information as I hurt myself further during the grass court season in Wimbledon, and it's just not the way to go forward. So unfortunately, they told me for the medium to long term to feel better, I will need surgery. So I decided to do it. I'll be on crutches for many weeks, and then also out of the game for many months. So it's going to be difficult, of course, in some ways, but at the same time, I know it's the right thing to do because I want to be healthy. I want to be running around later as well again, and I want to give myself a glimmer of hope also to return to the tour in some shape or form. I am realistic, don't get me wrong. I know how difficult it is at this age right now to do another surgery and try it, but look, I want to be healthy, and I will go through the rehab process, I think also with a goal while I'm still active, which I think is going to help me during this long period of time.
Voilà pour le journal des sports de ce mardi.
La providence et la jeunesse ne durent jamais, ça je l'ai appris à mes dépens. Donne à présent de quoi manger, mignonne, gagne ton ciel et me sois bonne, ma jouvence elle ma mignonne. Providence et la jeunesse ne durent jamais, ça je l'ai appris à mes dépens. Donne à présent de quoi manger, mignonne, gagne ton ciel et me sois bonne, ma jouvence elle ma mignonne.
Et ça, vous avez sans doute reconnu, c'était Mayra Andrade et ce morceau qui s'appelle « Comme s'il en pleuvait ». Allez, on va maintenant aller en France, retrouver Émile Matasso, mais aussi Jean-Noël Ducasse, bien sûr. Ils vont nous parler aujourd'hui d'un grand magasin mythique, la Samaritaine, qui a rouvert il y a quelques semaines après plus de 15 ans de travaux.
Eh bien, comme chaque mardi, place à présent à l'actualité française. Pour en parler, nous sommes avec Émile Matasso. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous revenons sur la réouverture à Paris de la Samaritaine. Le grand magasin fermé pendant plus de 15 ans a rouvert il y a bientôt deux mois.
Oui, c'est un événement, la réouverture de la Samaritaine, événement qui n'est pas que commercial, on va y revenir. La Samaritaine, c'est aussi l'un des symboles de Paris, cet immeuble gigantesque en bord de Seine, joyau architectural, des magasins, des galeries, aujourd'hui toutes dédiées au luxe, hein, mais ça n'a pas toujours été le cas. La Samaritaine qui était fermée depuis 2005, l'enseigne appartient à LVMH, le groupe de cosmétiques de luxe dirigé par Bernard Arnault. Bernard Arnault, hein, qui aux côtés des Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et autres, Elon Musk pour Tesla, Bill Gates pour Microsoft et Mark Zuckerberg pour Facebook. Bernard Arnault qui fait partie des plus grandes fortunes du monde. LVMH a récupéré la Samaritaine en 2001. Il a donc décidé de fermer l'enseigne en 2005 pour des travaux de rénovation et aussi certains murmurent que le grand magasin n'était plus tout à fait rentable à l'époque. En tout cas, ce qui n'était pas prévu, c'est que cette fermeture dure aussi longtemps. La réouverture, au départ, elle était prévue pour 2011. Elle n'a pu se faire que 10 ans plus tard, au mois de juin de cette année, entre les recours qui ont été déposés par les riverains, les surcoûts, puis ces derniers mois, la crise du Covid, tout a été plus compliqué que prévu. 2005-2021, 16 ans de travaux, un coût de rénovation estimé à 750 millions d'euros. Mais ça y est, la Samaritaine accueille de nouveau des clients depuis la fin du mois de juin. Mais pas seulement, hein, tout le bâtiment de style Art Nouveau, Art Déco a été repensé. Le grand escalier central orné de 16 000 feuilles d'or a été conservé, bien entendu, de même que les 270 marches d'origine en chêne, mais tout autour a été refait. Les boutiques, mais aussi de nouveaux espaces de restauration, des salons VIP, côté Seine. Il y a même des logements sociaux du côté de la rue de Rivoli, hein, c'était prévu dans l'accord passé avec la mairie de Paris. Et puis face au Pont Neuf, vous avez un palace, oui, un palace qui va bientôt ouvrir et pouvoir accueillir très bientôt la clientèle.
La Samaritaine vise avant tout une clientèle de luxe et en grande partie une clientèle étrangère.
Bien, quand on parle des grands magasins à Paris, vous avez les Galeries Lafayette, le Printemps, le BHV et la Samaritaine. Historiquement, la Samaritaine est l'enseigne qui offrait à son apogée la plus grande surface de vente, jusqu'à 48 000 mètres carrés du temps de sa splendeur. La voilure a été réduite et dans sa nouvelle configuration, 20 000 mètres carrés là sont consacrés à la vente. Mais l'idée est bien d'en faire la mecque du luxe. L'immense sous-sol, 3400 m2, est entièrement consacré aux soins, aux parfums. Et dans les étages, vous trouvez toutes les boutiques de bijoux, de joaillerie, du prêt-à-porter, des chaussures, etc. etc. 650 marques sont là et l'ambition clairement affichée par le groupe LVMH, eh bien, c'est d'en faire un carrefour incontournable pour tous les touristes fortunés, notamment les touristes américains et asiatiques. Alors le seul hic qui est de taille, c'est que pour l'instant, avec la pandémie Covid-19, il n'y a plus de touristes à Paris, de touristes étrangers. Il va falloir se contenter, entre guillemets, des Parisiens, des clients français. La Samaritaine, elle espère pouvoir lancer une nouvelle dynamique en février prochain avec le nouvel an chinois, février 2022 peut-être, mais on sait que les Asiatiques ne sont pas ceux qui se sont le plus fait vacciner. Or, il faut avoir le pass sanitaire déjà pour pouvoir venir en France. Plus sûrement, c'est peut-être dans un an, durant l'été 2022, que la Samaritaine pourra profiter pleinement de ces touristes étrangers. Rappelons qu'en 2019, avant la pandémie, 2 400 000 Chinois étaient venus dans la région Île-de-France en un an. Donc oui, à terme, le groupe LVMH, il espère attirer jusqu'à 5 millions de visiteurs, de clients à la Samaritaine par an, avec un chiffre d'affaires qui est espéré de 400 millions d'euros par an. Il y a le palace dont on a parlé, le cheval blanc adossé au magasin qui va ouvrir avec une extraordinaire vue sur la Seine, sur Paris, le bâtiment rénové de la Samaritaine.
qui fait entrer partout la lumière jusque dans les boutiques. L'enseigne, créée en 1870, certes elle a mis 16 ans pour rouvrir, mais la Samaritaine est bien décidée à damer le pion à ses concurrents du 8e arrondissement de Paris, les galeries Lafayette et Le Printemps.
Si on remonte dans le temps, quelle est l'histoire de la Samaritaine jusqu'à cette réouverture ?
Bien, tout a commencé en 1870, il y a 151 ans, quand Ernest Cognac, qui jusque-là vendait des produits sur le Pont Neuf, a ouvert dans une salle annexe d'un café qu'il louait dans un premier temps, un petit commerce consacré aux nouveautés du moment. Il l'a appelé ce commerce à la Samaritaine du nom de la pompe à eau qui se trouvait sur le Pont Neuf. Et avec son épouse Marie-Louise G., eh bien le commerce d'Ernest Cognac, qu'il s'est vite agrandi, il a prospéré. Ils ont organisé leur magasin, puisqu'il y a eu très vite de plus en plus de salles, ce commerce qui s'agrandit, des magasins en différents rayons, gérés par des petits patrons indépendants. Finalement, c'était le début de ce qu'on appelle aujourd'hui une franchise. Hein. On donnait beaucoup de responsabilités au petit patron qui gérait ses articles, ses nouveautés. L'aventure dans ce Paris de la fin du 19e siècle, eh bien, elle n'a cessé ensuite de s'agrandir. En 1928, à la mort d'Ernest Cognac, le magasin a été repris par son neveu et un associé, Georges Renan. Des magasins qui ont ouvert des deux côtés, côté Seine, mais aussi du côté de la rue de Rivoli, dans les années 30, avec toujours ce grand bâtiment-là qui a pris forme pour accueillir toutes les enseignes de la Samaritaine. La Samaritaine qui a continué de grandir toujours et encore et qui devient dans les années 60, hein, ces années de frénésie consommatrice, les 30 Glorieuses en France, le plus grand magasin de Paris, avec ce slogan alors connu de tous, on trouve tout à la Samaritaine. On trouve tout à la Samaritaine et de fait, avant de devenir ces dernières décennies un temple dédié aux grandes marques et au luxe, vous trouviez aussi un rayon bricolage, des jouets, il y avait une animalerie, une oisillerie, des animaux, des oiseaux. Oui, l'enseigne a longtemps été gérée par la famille Renan, puis en 2001, elle a été rachetée par LVMH. Et là, après la période dorée, eh bien la Samaritaine a dû progressivement, mais cela dès les années 90 et jusqu'à sa fermeture en 2005, eh bien réduire la voilure, réduire les ambitions. De nombreux rayons ont dû fermer, il n'y a plus d'animalerie, on ne trouve plus d'oiseaux. Aujourd'hui, on l'a dit, on l'a vu, l'enseigne mise tout sur le cosmétique, le luxe, les bijoux, des objets avec beaucoup de valeur ajoutée et une clientèle ciblée, un business aligné sur l'international. On est loin, très loin du petit commerce originel d'Ernest Cognac, créé en 1870, mais le nom et le lieu subsistent, la Samaritaine.
Merci Émile, bonne journée, à bientôt.
Merci, merci, à bientôt.
Kabylie Forni. Kabylie Forni, c'est le nom du morceau qu'on vient d'écouter. Il est interprété par le groupe français Bagarre. 13h47, c'est quasiment la fin de notre émission. Et justement, pour terminer, on va discuter avec un jeune chef cuisinier. Il s'appelle Gaël Tessier. Et depuis maintenant quelques semaines, il donne sur Instagram des recettes à la fois simples et équilibrées qu'on peut faire avec des moyens très limités, comme par exemple quand on est en road trip ou en camping. Alors, les petits plats de Gaël, c'est le nom de ce compte Instagram sur lequel ces conseils sont donnés. On en parle tout de suite avec le principal intéressé. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler cuisine, pas n'importe laquelle, la cuisine qu'on peut faire en voyage, en camping, avec un matériel extrêmement limité. Et pour en parler avec nous, on a Gaël Tessier. Bonjour.
Bonjour.
Alors Gaël, tu es cuisinier de formation, mais tu as décidé sur Instagram de montrer aux gens que c'est possible, en gros, de manger autre chose que des nouilles chinoises quand on est en road trip, par exemple.
Ouais, bah, c'est exactement ça. Nous, on est en road trip, là, ça fait un mois qu'on est reparti. Et on cuisine beaucoup, tous les jours, on cuisine dans notre van avec juste un gas cooker, une casserole, un wok et une poêle, quoi.
Alors, je précise, hein, parce qu'il y a quand même la moitié du pays qui est confiné actuellement. Pour ta part, enfin, avec ta copine, vous êtes en Australie occidentale, vous dirigez vers le territoire du Nord. Il y a quand même des parties de l'Australie où ça reste possible de se déplacer comme vous le faites.
Ouais, carrément. Nous, on a la chance d'être au bon endroit en Australie en ce moment. Donc, le confinement, non, on n'y est pas et on a beaucoup de chance par rapport à ça. Ouais.
Ok. Alors, Gaël, je le disais, tu es cuisinier de formation, mais tu as commencé, tu as créé un compte Instagram où tu partages un petit peu tes recettes, des recettes qui globalement sont assez simples. Il n'y a pas besoin d'être un chef étoilé pour réussir à faire les plats que tu proposes. Et donc, la particularité, c'est qu'elles nécessitent très peu d'équipement. Comment t'es venu l'idée ?
Alors, on va revenir sur les nouilles chinoises, en fait. Donc, moi, c'est pas un truc que je connaissais. Et c'est vrai qu'on a rencontré beaucoup de backpackers durant le road trip. Et un jour, on a rencontré deux backpackers qui avaient posté un post sur Instagram en disant « Ouais, aujourd'hui, on va pas manger des nouilles chinoises. » c'est à partir de rencontres qu'on s'est dit « Tiens, pourquoi pas créer un compte et partager nos recettes qu'on fait en toute simplicité. Hein. » Encore une fois, on n'a pas beaucoup de matériel. Et à partir de ce compte, ça pourrait inspirer d'autres personnes qui pourraient reproduire, que ce soit un wrap végétarien, un petit poisson grillé sur un barbecue avec un petit accompagnement de légumes. Donc tout tourne autour de la pêche et des légumes. Des légumes qu'on achète et de la pêche qu'on pêche partout en Australie, que ce soit au bord de la mer, dans une petite rivière. Il y a une grosse partie pêche, mais on cuisine beaucoup de légumes. Ouais. On achète très peu de viande et on vit surtout de ce qu'on pêche et de ce qu'on achète en légumes.
Ouais, alors effectivement, en tout cas moi, les deux stories récentes que j'ai vues sur le compte, c'était effectivement la préparation d'un dal. Plat d'origine, alors je suis pas sûr si c'est indien ou sri lankais, mais enfin de cette partie
du
monde.
Ouais, plus indien, ouais. Après, ça doit exister au Sri Lanka, ça m'étonnerait pas, mais c'est ça.
Et donc complètement vegan, effectivement, que des légumes. Et j'ai vu une autre recette, c'était du poulpe, me semble-t-il, avec du poulpe préparé avec des petits légumes, etc. Et ensuite, le tout, les pâtes cuites dans le jus du poulpe, ça avait l'air vraiment très très bon, ça.
Et c'était très bon, ouais. Donc, ça c'est l'exemple type. Par exemple, ouais, on a eu la chance de pêcher un poulpe. Et après, sur l'Instagram, j'explique comment on va le cuisiner. C'est-à-dire, par exemple, pour le poulpe, on l'a cuit au courbouillon, dans un courbouillon végétal. On l'a cuit pendant 1h30 dans ce bouillon. Après, on l'a sorti du bouillon, on l'a taillé. On l'a fait revenir dans une casserole. On y a ajouté la garniture qu'on avait utilisée dans le bouillon végétal, par exemple. Et après, on rajoute notre bouillon qui est maintenant un bouillon de poisson, quoi, un bouillon à base de poulpe. Et on va cuire nos pâtes dedans et on termine avec un petit peu de fromage. Et j'avais mis, si je me souviens bien, des câpres et du jus de citron. Ouais. Et c'était très bon. Et ça donne des idées. Bon, tout le monde ne va pas pêcher un poulpe, mais ça peut donner des idées pour ceux qui empêchent un jour et qui ne savent pas trop quoi en faire.
Alors, tous les deux, vous avez ce petit avantage, effectivement, vous pêchez, donc vous pouvez un petit peu améliorer l'ordinaire. Mais moi, ce qui m'a plu dans ce compte, au-delà du fait que ce sont des recettes assez simples à faire, c'est que ça démontre aussi que c'est possible de manger bien, de manger équilibré, même en étant sur un budget serré.
Ouais, alors...
Et même en Australie.
Ouais, même en Australie. Après, j'avoue, de temps en temps, c'est compliqué à trouver... des légumes en Australie, mais c'est pas impossible, loin de là. Donc nous, ce qu'on fait la plupart du temps, c'est on se rapproche des petits marchés de producteurs pour se fournir en légumes. Comme ça, on peut avoir des légumes de très bonne qualité. Ce sera pas des légumes de supermarché où de janvier à décembre, ils vont avoir exactement le même goût et très peu de vitamines. Donc, on se rapproche souvent des petits marchés aux alentours des petites villes ou des grosses villes. Après, c'est vrai, quand on est dans l'outback, loin de tout, c'est impossible d'aller voir il y a très peu de chances qu'on aille voir un petit producteur. Mais, c'est largement possible, en Australie de bien manger à petit prix, parce que voilà, les petits producteurs, il y a beaucoup de petits producteurs qui vendent à un prix très, très raisonnable, en dessous du supermarché. Et c'est 100 fois meilleur qu'au supermarché.
Bon, pour revenir à toi, Gaël, donc là, sur ce compte Instagram, c'est des recettes assez faciles qu'on peut faire à l'arrière de son, ouais, de son van. Mais tu as une vraie formation de cuisinier à la base. Tu peux nous raconter un peu ton parcours ?
Ouais. Alors, moi, je suis cuisinier de formation. J'ai fait BEP et brevet professionnel, donc en 4 ans. Donc j'ai fini par l'apprentissage à un brevet professionnel pendant 2 ans chez moi à Castres, à côté de Toulouse. Et à 19 ans, je suis parti juste après l'apprentissage. J'ai pas mal voyagé. J'ai passé 3 ans en Angleterre, dont 2 ans chez Pierre Gagnard. Après l'Angleterre, j'ai travaillé pendant 1 an en Suisse. Donc là aussi, j'ai été dans des restaurants étoilés. Et après ça, j'ai fait 1 an en Nouvelle-Zélande. Donc là, j'ai travaillé dans un restaurant gastronomique. Pareil, après, j'ai fait un road trip aussi, mais plus court, juste un mois. Parce que de toute façon, la Nouvelle-Zélande, c'est beaucoup plus petit que l'Australie. Et ensuite, je suis revenu chez Pierre Gagnard à Moscou pendant quasiment 1 an. Et après cette expérience, j'ai fait quelques saisons entre la Côte d'Azur et les Alpes, les Trois-Vallées, Saint-Martin-de-Belleville, où là, j'ai eu mes premières positions de chef dans un hôtel 4 étoiles. Dans une station de ski. Et ensuite, on est allé à Cognac. C'est là où j'ai rencontré mon ami, Alison. Et donc, là-bas, j'ai fait l'ouverture d'un hôtel 5 étoiles en tant que sous-chef du restaurant gastronomique. Et ensuite, j'ai fini par faire une saison à l'hôtel Le Martinez à Cannes. Donc, hôtel 5 étoiles. Donc, une saison d'été. Et ensuite, on a décidé de venir en Australie.
Oui, j'imagine qu'avec un CV pareil, tu n'as pas eu trop de difficultés à trouver du travail ici ?
Non, bah, je l'avais même trouvé avant de venir. Ouais.
Ok. Alors, pour revenir à ce compte Instagram, comment il s'appelle si on veut le suivre et voir vos aventures, mais aussi vos recettes ?
Ouais, alors, donc, le compte Instagram, c'est Les Petits Plats de Gaël. Donc, comme ça se prononce, Les Petits Plats de Gaël. Et donc là, on met toutes nos recettes. En ce moment, on cuisine beaucoup, donc on met une story par jour. C'est une story de recettes. Par exemple, aujourd'hui, on va mettre le taboulé que l'on a fait hier. Donc, taboulé tout simple de tomates, concombres, menthe, jus de citron, raisin, qui est facile à reproduire. On explique tout dessus, les pesées, le grammage, approximativement, bien sûr. Et c'est très facile à reproduire, donc voilà.
Ok, bon ben merci beaucoup Gaël, bonne pérégrination et profitez-en bien, parce qu'encore une fois, de nombreux autres comme moi-même sommes coincés actuellement, donc profitez bien de votre liberté.
Ouais, ben merci beaucoup, et ça me fait plaisir de faire cette petite interview, et surtout n'hésitez pas à aller faire un tour. Et vous prendrez sans doute plein d'idées, même si vous êtes chez vous à la maison, ça peut toujours servir.
C'est noté. Merci beaucoup.
Merci.
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte avec ce morceau interprété par Corinne et qui s'appelle « Il fait chaud ». Nous, on se retrouve jeudi à 13h précise pour une nouvelle émission en direct. Et d'ici là, je vous rappelle que vous pouvez aussi nous écouter en podcast en vous abonnant à notre chaîne SBS French sur toutes les plateformes de streaming audio. Passez tous une excellente après-midi et surtout, gardez le moral, même si pour la plupart d'entre nous, en ce moment, les temps sont durs.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.